Chapitre 12. Il y avait 15 jours avant l'exposé, et un jour de plus avant le concours de Miss, qui était tout juste le lendemain de la journée porte ouverte du collège. Ce furent littéralement 15 jours de folie. Non, je n'exagère pas, 15 jours à devenir fou. À la maison, ce n'était que frou-frou, dentelle et paillettes. À peine avais-je franchi le seuil de la maison après l'école qu'une horde sauvage se jetait sur moi. Maman m'agrippait, armée d'un fer à friser et de bigoudis, et venait assaillir mes cheveux. Je devais rester assise de longues minutes coincée entre le lavabo et la cuvette des WC, en attendant que ma mère tente toutes sortes d'expériences avec ma chevelure. J'étouffais sous la soufflerie du séchoir. Le miroir de la salle de bain commençait à se couvrir de buée. Bientôt, tout n'était plus que brouillard et chaleur moite. J'entendais ma mère soupirer « Ah non, ça ne va pas !» Et au bout d'une heure, elle finissait par s'asseoir sur les toilettes, dépitée, répétant « Ah, tes cheveux, ma puce ! Ah, tes cheveux !» J'aurais bien aimé savoir la suite de la phrase. Voulait-elle dire « Ah, tes cheveux, ma puce, ils sont magnifiques !» ou bien « Ah, tes cheveux, ma puce, ils sont infernaux !» Pour parfaire la tragédie, Églantine apparaissait sur la scène de la salle de bain. Elle me regardait avec attention, remuant la tête, puis faisant la moue, et elle s'exclamait « Non, pas comme ça !» Elle arrachait la brosse des mains de ma mère et se mettait à tirer sur mes mèches. Je hurlais, je criais, mais personne ne venait à mon secours. Au contraire, un troisième bourreau entrait en scène. Ma sœur Clémentine poussait la porte et elle aussi entonnait le fameux refrain « Ah, oh, tes cheveux !» « Ah, tes cheveux !» en prenant un ton dramatique, quasiment larmoyant. Heureusement, de la cuisine, on entendait « À table !» Mon père, ce héros, venait sauver ma tête, armé de son tablier de cuisine et de sa grande cuillère en bois. Pendant une demi-heure salvatrice, au-dessus d'un plat de poulet pommes de terre, je pouvais espérer retrouver ma tête. Mais mon répit était de courte durée. Après le repas, il fallait que je prétexte la préparation d'un important contrôle de maths si je voulais échapper à la séance d'essayage de robe ou, pire, aux essais maquillage. À vrai dire, je crois que je n'ai jamais autant révisé mes maths que durant ces 15 jours-là. À l'école, j'aurais pu échapper à cette folie familiale. Seulement, voilà, une autre folie capillaire m'attendait. J'avais conclu un accord avec David Ferry et je ne pouvais y échapper. Je lui avais promis mes cheveux. Et de nouveau, je voyais ma tête m'échapper. Seulement là, l'entreprise était plus délicate. Je prêtais ma tête à David, mais il était impératif que tout se passe en secret. Personne ne devait rien savoir. Le premier jour, David était arrivé au collège avec un grand sac de sport. Discrètement, à la fin du cours de maths, il m'avait fait signe. On avait attendu que tout le monde sorte de la salle de classe, et là, il m'avait montré tout son attirail. Brosse à cheveux, chouchou, tube de laque, tout un programme. J'ai soupiré. Je me répétais. Ah, oh, encore ! Sur le même ton que ma mère annonçait. Ah, oh, tes cheveux ! Ah, oh, tes cheveux ! Mais à vrai dire, tout était différent dans la maison. Était-ce l'attrait du secret qui pimentait ces séances de coiffure ? Au lieu d'une scène de torture, j'avais l'impression d'assister à un jeu d'espionnage. David et moi avions remarqué que la salle de sciences physiques du 3e étage était toujours libre le matin. Alors, on arrivait plus tôt au collège et, entre 7h45 et 8h15, on filait au dernier étage et on se cachait derrière la porte de la salle 315. Il fallait faire vite. On ne disposait pas de beaucoup de temps, mais les doigts de David étaient agiles et incroyablement sûrs d'eux. Je les sentais prendre possession de mes cheveux. Mais ça ne tirait pas, ça ne pinçait pas. Au contraire, ce n'était rien d'autre qu'une douce caresse. David ne soupirait pas, ne répétait pas « Ah, oh, tes cheveux !» Il ne disait rien d'ailleurs. Et à 8h15, quand la première sonnerie des cours retentissait, il posait la brosse à cheveux et me tendait un miroir. À 8h16, dans le miroir, je voyais Elsa, la reine des neiges, et sa tresse magique. Ou bien la crinière savamment indomptable de Shakira. Ou encore le chignon brillamment élaboré de Grace Kelly dans les films d'Hitchcock que regarde papa. J'étais funambule. Ma vie était devenue un long et mince fil tendu au-dessus du vide. Impossible de me retourner ou de faire marche arrière. J'étais contrainte de continuer en avant pour passer de l'autre côté du gouffre. Plus encore, impossible de baisser la garde et de faire le moindre faux pas, au risque de glisser au fond du précipice. Le premier jour, en rentrant de l'école, j'ai oublié que je jouais les équilibristes sur le fil du rasoir. Comme tous les après-midi, j'ai passé la tête dans le cabinet médical de maman qui se trouve au rez-de-chaussée de la maison. D'habitude, maman me fait un clin d'œil et je file dans ma chambre. Ce jour-là, maman avait la tête penchée sur la mâchoire édentée de Monsieur Boulou. Lorsqu'elle a levé les yeux vers moi, elle a sursauté. Sa main a dérapé. Monsieur Boulou a laissé échapper un horrible cri. J'ai entendu ma mère baragouiner « Pardon, pardon !» Mais aussitôt, elle a ajouté « Oh, tes cheveux ! Oh, tes cheveux !» Ce n'était pas un « Oh, tes cheveux !» mélodramatique et apitoyé. C'était un « Oh, tes cheveux !» inédit, admiratif et enthousiaste. De nouveau, Monsieur Boulou a grogné. J'ai profité de la confusion pour m'éclipser et courir dans la salle de bain. D'un geste brutal, j'ai défait la belle coiffure de David. Mes cheveux ont repris leur forme habituelle, c'est-à-dire une absence totale de forme, masse incontrôlée et incontrôlable. Depuis lors, tous les autres soirs, en rentrant du collège, je ne manquais pas de détruire mèche après mèche les chefs-d'œuvre capillaires de David. Ma tête, c'était le rocher de Sisyphe. Chaque matin, ma tête hirsute était embellie, gravissant les canons de la beauté, et chaque après-midi, d'un geste, elle redevenait ce chaos ébouriffé auquel ma mère, chaque soir, essayait en vain de redonner beauté. Et le lendemain, ça recommençait. Encore, encore. Heureusement, au milieu de cette absurdité, ma vie prenait sens. Les après-midi où nous finissions les cours tôt, David m'emmenait à la caserne, me faisant tout visiter. J'avais réussi à soudoyer Clémentine pour qu'elle me prête son appareil photo. Ça m'avait coûté un mois de vaisselle, mais avec ce sacrifice ménager, je pouvais prendre des vidéos et préparer un vrai reportage sur le travail des pompiers. Tant pis si c'était David qui était censé faire cette partie de l'exposé. À vrai dire, j'étais mille fois plus motivée que lui par le sujet. David m'avait mis en contact avec Tom, le pompier au dauphin. Tom était super sympa. Il répondait à toutes mes questions, devançant même mes interrogations. Un mercredi, Tom m'a emmené au port et m'a montré comment fonctionnait le Zodiac dont il se servait pour partir en intervention. J'ai tout regardé, tout enregistré. Tout à coup, une alarme a retenti. Tom et son équipe étaient appelés en urgence. Le bateau d'un plaisancier avait pris feu non loin de la côte. Mon cœur s'est mis à battre très fort. On apercevait à l'entrée du port une épaisse fumée noire. Tom m'a fait signe de rester à l'abri. Mais de là où j'étais, je voyais tout. Il y avait un mélange d'excitation, de peur et de résolution. Tout n'était que confusion et incertitude, mais Tom savait exactement ce qu'il devait faire. Ses gestes étaient précis. Je l'ai vu revêtir son équipement de protection, embarquer la pompe à eau, sauter dans le Zodiac. Quelques minutes plus tard, Tom et ses collègues sont revenus avec le plaisancier qui était légèrement blessé. L'homme avait une longue balafre sur la joue et tremblait sous la couverture de survie. Moi, je n'avais rien fait. Rien fait d'autre que tout regarder en spectatrice. Mais je me répétais, ils lui ont sauvé la vie. Sauvé la vie. Ce jour-là, David m'a raccompagnée chez moi. Le vent marin s'était engouffré dans mes cheveux et leur avait fait reprendre leur vraie nature. David a fait mine de sortir un peigne de sa poche. Je l'ai arrêté d'un geste. Sur un ton péremptoire, j'ai déclaré, un jour, ce sera moi qui sauverai des vies. David m'a regardé sans rien dire, sans même comprendre ce que l'instant avait de solennel. Je venais de faire une promesse, non pas à David, mais à moi-même, ou plutôt à celle que je serai dans le futur. Un jour, je sauverai des vies.